Chaque dimanche, dès 8h30, l'amour vaincra sur Tendance Ouest.
Bonjour à vous, je suis le frère Paul-Adrien Dardemar, je suis prêtre religieux catholique et je vous souhaite la bienvenue dans cette capsule « L'amour vaincra ». Aujourd'hui, nous allons voyager et nous allons regarder ces grandes merveilles que sont les pyramides. Deux d'entre elles sont liées plus ou moins à la Bible, les tours, les ziggourats de la Babylone, ce qui vous a donné la tour de Babel, et aussi les pyramides d'Égypte. Souvenez-vous de Moïse réduit en esclave en Égypte. Mais la dernière est une surprise et nous emmènera ailleurs dans le globe. Et puis, comme d'habitude, nous passerons à la lecture de l'évangile du jour. Nous commençons notre tour des pyramides de l'Antiquité avec les ziggourats de l'ancienne Mésopotamie. Les ziggourats sont des temples en forme de pyramide à degrés construits en Mésopotamie du côté de Babylone, ce qui vous a donné dans la Bible d'ailleurs la tour de Babel. Eh oui, la tour de Babel, c'est une ancienne ziggourat de Babylone que l'on a retrouvée grâce à l'archéologie au 19e, 20e siècle. Les ziggourats étaient faites en briques de terre séchée et en briques cuites. Elles comportaient souvent des terrasses superposées avec une rampe ou un escalier central menant au sommet. Une des mieux conservées a été construite au 21e siècle avant Jésus-Christ. Ça vous montre l'antiquité des ziggourats, la ziggourat d'Ur, d'où d'ailleurs a commencé l'histoire d'Abraham qui partait de Ur. Les ziggourats symbolisent une montagne sacrée, un lieu de rencontre entre la terre et le ciel. D'ailleurs, tout en haut de la ziggourat, il y avait une petite maison et on pensait que dans cette petite maison vivait la divinité. Une manière assez simple mais assez efficace de montrer comment est-ce que et le ciel et la terre pouvaient être unis en des lieux particuliers. Deuxième pyramide, évidemment celle que tout le monde connaît, les pyramides d'Égypte. Des structures monumentales en pierre construites comme des tombeaux cette fois-ci. Non pas des maisons pour abriter des dieux, mais plutôt des tombeaux, des demeures d'éternité pour les pharaons qui étaient, c'est vrai, considérés comme des dieux. La grande pyramide de Gizeh est la plus célèbre. Elle a été construite au cours du règne de Khéops. Là encore, les pyramides égyptiennes symbolisaient un escalier vers le ciel. Les Égyptiens croyaient que le pharaon, en tant que dieu vivant, avait besoin d'une structure grandiose pour faciliter son voyage vers l'au-delà et son union avec les dieux. La pyramide est donc une sorte de vaisseau qui permet de voguer par-delà la mort sur les rives d'éternité. La forme pyramidale pointant vers le ciel représente les rayons du soleil et rappelle la croyance en Ra, le dieu solaire. Chaque face de la pyramide était orientée vers un point cardinal, ce qui renforce son lien cosmique. Et l'intérieur de la pyramide, avec ses chambres funéraires et ses passages, était conçu pour protéger le corps du pharaon et ses biens, ce qui avait pour but de lui permettre de survivre dans l'au-delà. Une manière encore d'honorer et ses dieux et son pays et son roi, par-delà la mort. Dernière pyramide qui va nous emmener cette fois-ci de l'autre côté de l'Atlantique, au Mexique, les pyramides de Teotihuacan. Alors j'espère que je prononce bien, vous m'excuserez sinon. Teotihuacan est une ancienne cité mésopotamienne que vous trouvez près de l'actuelle ville de Mexico et qui sont connues pour les grandes pyramides à degrés. Vous avez notamment une pyramide du Soleil et aussi une pyramide de la Lune. La pyramide du Soleil est la plus grande structure de Teotihuacan et était probablement dédiée au dieu principal de la cité. Quant à la pyramide de la Lune, elle est située au nord de l'allée des morts, plus petite mais tout aussi impressionnante par sa beauté. Ces pyramides de Teotihuacan servaient de centre religieux et cette fois-ci de cérémonie. Et il ne s'agit plus d'abord d'abriter la divinité ou d'avoir une maison funéraire pour le pharaon, mais cette fois-ci d'assurer des cultes. Les pyramides au Mexique représentent des montagnes sacrées qui sont cette fois-ci des sources de vie et de fertilité. La pyramide du soleil était probablement liée au culte du dieu solaire, ce qui symbolise la force vitale et l'énergie cosmique. Et d'ailleurs, on voit que cette pyramide est alignée avec des événements astronomiques comme les solstices d'été ou d'hiver, ce qui indique son rôle de calendrier aussi, qui permettait aussi de faire les récoltes et les moissons. La pyramide de la Lune, elle, est associée à la déesse de fertilité, puisque le cycle féminin est souvent calé sur le cycle lunaire. La pyramide de la Lune, donc associée à la déesse de fertilité, c'était un lieu de rituel lié à la croissance des cultures et à la prospérité. Je passe maintenant à la lecture de l'évangile du jour. Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples « Passons sur l'autre rive ». Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était, dans la barque. Et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin, à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent « Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi. » Le vent tomba. Il se fit un grand calme. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux « Qui est-il donc celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Commentons ensemble ce passage de l'Évangile selon saint Marc. Si vous rentrez dans une église, vous aurez peut-être comme l'habitude de commencer par vous signer en mettant votre main dans l'eau du bénitier à l'entrée, de chercher au fond de l'église une lumière rouge qui scintille dans l'obscurité qui est la présence réelle du tabernacle, et peut-être aussi, et c'est là que notre Évangile commence, lèverez-vous les yeux sur la voûte de l'église, qui porte un nom particulier et que l'on appelle la nef, N-E-F. La nef, comme la nef d'un navire, comme la nef d'un vaisseau. Et de fait, avec votre imagination, si vous retourniez une église pour mettre le toit de l'église par terre, vous auriez l'impression de voir devant vous la cale d'un bateau qui s'avance et qui pourrait naviguer sur les flots. Eh bien, cette nef, ce bateau, ce navire qu'est l'église et qu'on représente à travers les voûtes de bois en haut des églises et des édifices religieux, c'est précisément la barque de pierre dont il était question dans l'évangile du jour. Cette barque de pierre malmenée par les vents, cette barque de pierre qui est déjà envahie de terreur et que les vagues commencent à couler. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Mais à l'arrière de la nef, à l'arrière du vaisseau et du bateau, à l'arrière de l'église, il y a cette lumière du tabernacle. La lumière rouge, signe de la présence réelle, Dieu est là, qui veille et qui maintient ce navire sur les flots. Lui, Jésus, dormait sur le coussin à l'arrière. Vous pourrez penser ici à la devise de la ville de Paris, « Fluctuac nec mergitur ». Elle est ballottée par les vents, mais elle ne sombre pas. Dans l'Évangile, l'image par excellence de l'Église, c'est toujours cette barque de pierre que vous voyez ici ballottée par les eaux, mais que vous auriez pu entreapercevoir quelques pages auparavant avec Jésus qui était en train de prêcher à partir de la barque de pierre pour abreuver de son enseignement les foules amassées sur le rivage. Nous, chrétiens, nous voyageons ensemble. Nous voyageons ensemble ballottés par le vent de la tentation, ballottés par les vagues du scandale, toujours à nous demander « Mais combien de temps l'Église va-t-elle tenir ?» Mais voilà que, sans nous en rendre compte, l'Église traverse les flots. Et vous ne serez pas surpris, mais les flots, à l'époque des Juifs, représentaient le royaume des morts. La mer, le lac de Capharnaüm, était probablement pour eux une porte d'entrée vers les enfers. Et alors, qu'est-ce qu'il vaut mieux ? Être dans une barque qui n'est pas secouée, mais qui fait du surplace ? Ou être dans une barque qui est secouée, mais qui arrive à traverser et la vie et la mort ? Il y a des traversées qui méritent quelques chahuts. Il y a quelques angoisses qui sont le signe d'une aventure, et il y a quelques vagues et quelques gouttes qui sont en fait le signe d'une victoire. Je note quand même que cet évangile n'est pas non plus là pour vous rassurer de manière trop rapide. Comme si vous pouviez vous dire « Mais de toute façon, l'Église à les promesses de la vie éternelle, et quels que soient les scandales, et vous pourrez penser aux abus des prêtres dont il a été question il y a quelques années, quelles que soient les crises, et vous pourrez penser à la crise vocationnelle, quelles que soient toutes les difficultés que l'Église peut traverser, eh bien nous avons les promesses de la vie éternelle, et au diable la galère, roulez jeunesse. Sauf que non, ce n'est pas exactement cela non plus dont il est question. Si jamais vous observez l'attitude de Jésus n'est pas passive. Peut-être qu'il dit aux apôtres d'avoir la foi, mais il ne leur dit pas de ne rien faire. Regardez ce que fait Jésus. Les disciples réveillent et lui disent « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ?» Voilà la réponse de Jésus. Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» La vraie attitude du chrétien, qui est malmené et ballotté par les vents, la tentation et les flots, la vraie attitude du chrétien, c'est la rébellion. Se réveiller, se lever en signe de la résurrection, brandir le poing vers le diable, vers la chair et vers le monde qui l'entraîne au péché, au scandale et au désespoir, et les menacer en leur disant « Silence, tais-toi ». Ça, c'est la foi chrétienne. Donc, ayez la foi, rebellez-vous contre le diable, contre le mal, menacez-les, et alors vous verrez que cette bague traversera et les enfers, et la mort, et la tempête.
L'amour vaincra, votre rendez-vous du dimanche avec le frère Paul Adrien. Retrouvez tous ses contenus audio et vidéo en tapant frère Paul Adrien sur YouTube, Instagram, Facebook et TikTok. Et sur le site internet et le réseau Discord en tapant l'amour vaincra.